Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Bonsoir, c'est la deuxième journée du Fluxfort podcast. Je m'appelle Eukusofolo, je suis avec Laura Dovin ce soir. Nous sommes très heureuses de vous accueillir parmi nous avec Nicolas, Olivier au son. Et il y a aussi une apparition surprise de la part de Giuseppe De Salvatore qui veut peut-être poser des questions, mais on ne sait pas pour l'instant. Nicolas est un peu enrhumé, peut-être il va aussi intervenir, mais bon. Bonsoir Laura, tu vas bien?
Oui.
Vous allez bien, pardon.
Oui, ça va et vous?
Merci. Laura, son film Home Tour fait partie de la compétition long métrage de Balfour cette année, mais ce n'est pas son premier court métrage. Elle a déjà réalisé un court-métrage documentaire qui a été présenté à Vision du Réel en avril 2025, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Trois d'entre elles ». C'est un documentaire sur les paroles des femmes et son expressivité. Et, quand on regarde Home Tour, avant de le situer un peu, ça a aussi une sorte de même thématique où on voit une jeune femme dans une sorte de situation où elle fait visiter deux officiers de police son appartement, l'appartement de sa famille plus précisément, et elle commence à nous parler de son routine quotidien. Mais il y a quelque chose qui est déstabilisant dans toute cette situation, dans sa parole, dans sa manière de s'exprimer, dans ses mouvements corporels, une sorte de dissociation qu'on n'arrive pas, comme s'il y a un indicible qui vient hanter ces espaces-là. Donc, le début, la genèse de ces deux projets sont la parole des femmes. Je voulais d'abord vous poser comment ces deux thématiques, je n'arrive même pas à dire le viol, peut-être, on peut le dire peut-être, et c'est évolué de forme documentaire vers la fiction. Peut-être comment vous avez décidé d'aborder ce sujet par une autre forme qui est plus qui vient de la performance, mais qui est toujours s'inscrite dans l'expressivité de la parole.
Merci pour votre question. En fait, dans le cursus de la FEMIS, en deuxième année, on doit réaliser un documentaire. Et à la FEMIS, on s'est retrouvé dans une situation où, dans notre promo, on est en parité. Et un jour, on nous a montré, dans le cadre d'un cours, plein de scènes d'extraits de films qui étaient uniquement des scènes d'agression sexuelle. Et en fait, à ce moment-là, moi je suis partie parce que je trouvais ça très violent et ça ne m'était pas très bien, mais je pensais que j'étais seule. Et en fait, je suis descendue dans la cour de l'école et d'un coup je me suis rendu compte que l'intégralité des femmes de ma promotion étaient dans la cour avec moi. Et c'était un moment très fort et très émouvant. Et on a commencé à parler en fait de ça et parler du fait qu'on avait la sensation, parce que la plupart des scènes qu'on avait vues avaient été en l'occurrence filmées par des hommes, de ne pas voir au cinéma ce qu'on avait l'impression, nous, de vivre de manière assez quotidienne, assez omniprésente. Et donc on a décidé, comme on devait faire un documentaire en deuxième année, de faire un documentaire où on pouvait tout en parler. Et le titre est venu de là, parce que ce qui était le plus important pour les femmes qui ont fait le film avec moi, c'était de donner le sentiment que c'était quelque chose de collectif, et pas juste nos histoires personnelles. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça « Trois d'entre elles ». Et ensuite, en troisième année, il a fallu faire une fiction, et j'ai essayé d'y mettre ce que je n'avais pas forcément pu mettre dans le documentaire, parce que la forme ne s'y prêtait pas, on ne pouvait pas demander à des femmes qui avaient le courage de témoigner comme ça sur leur vie, de mettre en scène autant leur quotidien. Et donc j'ai essayé de le faire là dans cette fiction où j'avais entre guillemets la liberté d'être avec une actrice, de pouvoir écrire un scénario.
le film est assez parlant. Votre personnage parle beaucoup, elle s'exprime beaucoup, mais d'une sorte de monologue, c'est pas un monologue, mais une sorte de... Il y a des moments de comme si c'était un monologue, elle parlait à elle-même, alors qu'il y avait deux officiers qui l'écoutent. Et moi, j'étais curieuse si tout était écrit, comment vous avez répété ces dialogues, parce que c'est un travail très impressionnant. Surtout parce que vous filmez des plans assez longs. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail de direction d'acteurs, direction d'actrices, mais aussi d'acteurs, parce que les policiers qui sont là, ils ne parlent pas, mais ça c'est aussi un vrai performance pour rester debout comme ça. C'est de la performance. Voilà.
Oui, effectivement. Mais en fait, j'ai beaucoup beaucoup écrit jusqu'à la veille du tournage. J'écrivais encore. Et donc ça a beaucoup nourri, il y avait en fait des monologues qui ne se retrouvent pas forcément dans le film, mais ça a nourri, je pense, peut-être pour Patience Winkenbach, l'actrice, le travail. Mais ce qui est drôle, c'est qu'entre guillemets, même si elle parle beaucoup, quand j'ai fait un casting avec elle, c'est beaucoup plus son rapport à son corps qui m'a touchée. Parce qu'elle était très jeune, elle avait quand même 19 ans, et elle est arrivée avec toute la maladresse de corps que ça comporte, et c'est ça qui m'a touchée avant tout, et après c'était sa voix. Et donc on a beaucoup travaillé, pas tant sur des choses de psychologie, mais sur des choses où on se demandait où placer la voix, quel rapport elle avait avec tout ce qu'elle disait.
Ah, ok. Vous parlez du corporalité, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de dissociation par rapport entre son corps et sa voix et tout ce qu'elle vivait. Est-ce que... C'est peut-être très intime de le poser, mais est-ce que c'était quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie? Si ça ne vous dérange pas de nous parler un peu le côté intime ou le personnel de ce récit, ou à quel point ça vient de l'intime, disons.
Non, ça ne me dérange pas du tout, parce que ça fait partie du film, et c'est à la fois intime, à la fois ça ne l'est pas du tout, parce que c'est très collectif, c'est vécu par la plupart des femmes, mais oui, en fait, on trouvait que c'était assez important. Je dis on parce qu'on a beaucoup pensé ce film-là collectivement avec mon équipe. On trouvait ça assez important qu'elle ne raconte pas les choses comme peut-être on a l'habitude de les voir avec beaucoup de drama, entre guillemets, mais qu'elle les raconte avec parfois la distance qu'on est obligé de mettre quand on parle de ces choses-là. Et souvent, on s'attend à ce que quand quelqu'un nous raconte une histoire personnelle, il y a un effet de révélation où la personne se met à pleurer. Et parfois, ça n'arrive pas du tout comme ça, parce qu'il y a une espèce de dissociation, justement, face à la violence de ce qui est dit. Et du coup, c'était important pour nous qu'il y ait ce ton-là dans le film. Et c'était aussi important pour nous qu'il y ait un décalage et une forme d'humour, entre guillemets, dans la façon dont Patience jouait, parce que, même si ça peut paraître étonnant, avec nos amis, on a beaucoup tendance à faire des blagues, en fait, sur ces sujets-là. Et c'est très salvateur, et c'est un humour, mais qui est juste basé... de manière très triviale, juste sur une expérience commune, quoi. Et donc on trouvait que c'était important de pas simplement faire un tire-larme, entre guillemets.
Surtout quand elle dit, quand elle mange, prépare ses noodles, quand elle dit il faut mettre deux parce que ça ne vaut pas le coup, mais c'est un humour. Quand on voit la scène suivante où elle explique comment elle se fait vomir, c'est vraiment un humour... très à point, mais très sombre aussi, je trouve. Mais un autre aspect qui ajoute à cette manière d'aborder l'humour, c'est aussi la longueur de plan, je pense. Parce qu'on est, dès le départ, vers la fin de chaque plan, on est fixé sur elle. On la voit tout le temps. Et je pense que ça crée aussi une sorte de déstabilisation par rapport à ce personnage. Parce que peut-être que je voulais poser est-ce que la position des officiers, c'était plutôt les sortes de lieutenants de spectateurs, de spectatrices. Donc, est-ce que vous percevez les policiers comme les spectateurs qui regardent, ou bien quelle était la place de ces personnages assez qui ne parlent plus, qui sont un peu mutiques, mais qui sont là? Donc, qu'est-ce qu'ils représentaient précisément?
En fait, je me suis beaucoup posé la question parce qu'on a, quand on écrivait le film et quand on en parlait ensemble, on n'avait pas envie qu'elle soit seule en parlant de tout ça. Et c'est vrai que parfois, quand on fait un house tour, on est seul, on ne voit pas les personnes qui nous interrogent. Et là, j'avais envie qu'elle ne soit pas seule, j'avais envie qu'elle dise « venez et regardez ». Et en fait, quand on a beaucoup réfléchi à qui devait être là, je voulais certainement pas que ça soit des personnes de son entourage, parce que je voulais pas que ça soit un règlement de compte, ou je voulais pas que ça soit de l'ordre du privé. Et ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'elle reconstitue son quotidien. Et donc, j'ai voulu en fait prendre ce principe de reconstitution criminelle et de le décaler pour en faire une reconstitution quotidienne. Et je trouvais ça très important, notamment par rapport à la façon dont la justice fonctionne sur ces questions-là, sur la tangibilité des faits, et où se situe la plus grande des violences. Et pour moi, elle se situait mille fois plus dans ce quotidien-là, dans le temps que prend tous ces gestes-là, que dans un événement où il y aurait un avant-après.
Et en plus, je pense qu'en tant que femme, il y a aussi une sorte de violence qu'on exerce sur nous-mêmes, parce qu'on souvent juge nous-mêmes, et il y a une sorte d'intériorisation de violence par la répétition, parce qu'il y a quand même, on a l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle raconte tout ce qu'elle est en train de vivre. C'est comme si c'était énième fois qu'elle répète, qu'elle explique, et c'est pour cela qu'elle a cette distance. Parce qu'elle est tellement impliquée dans sa réalité qu'elle n'arrive pas à avoir une émotion par rapport à tout ce qu'elle vit. C'est juste un acte quotidien comme l'autre. Et ça, c'est peut-être le plus dérangeant. Le fait que ça soit normalisé, banalisé dans son existence. Le fait que la violence soit tellement... qu'il perde son importance, quoi. Je ne sais pas si c'est... Giuseppe lève sa main. Oui,
moi. Alors peut-être, je profite de la présence de Laure ici à Belfort aussi pour poser une question. Le film m'a beaucoup frappé, surtout pour sa dramaturgie. Le fait que la dimension proprement dramatique et aussi le thème, disons comme cela, est dévoilé assez lentement finalement. Et qu'on passe d'un volontarisme assez détaché, parce que tout est mis en scène, et on comprend tout de suite en tant que spectateur que c'est mis en scène, c'est très théâtral, c'est presque artificiel. Et c'est le fait que cet volontarisme, qui est aussi un volontarisme formel du film, est assumé jusqu'au bout et porté jusqu'à son paroxysme. Et c'est là qu'après, ça commence à craquer, on commence à sentir la fragilité de ces personnages qui autrement seraient au début assez imperméables. Donc je serais assez curieux de comprendre le travail vraiment peut-être d'écriture ou de dramaturgie en général, et comment ou combien l'actrice... apporter cet élément d'exagération comme un élément qui est finalement pivot, qui est finalement fondamental pour faire en sorte que le film passe d'un statement, disons comme ça, à quelque chose de vraiment émotionnel, ce qui se passe à la fin.
En fait, j'avais cette idée de la danse assez longtemps avant, et pour moi, elle permettait d'exprimer le fait que cette espèce de sursexualisation vécue en permanence infuse dans le personnage lui-même et qu'elle finisse par le ressortir sur les autres. Et en fait, du coup, quand l'actrice est venue faire le casting, je lui ai demandé d'écouter de la musique qu'on n'entendrait pas, et je lui ai juste dit de danser. Et elle a fait ce qu'on voit dans le film et qu'on a ensuite beaucoup travaillé ensemble. Mais j'avais l'impression que c'était, en tout cas, en écriture, j'ai essayé de me concentrer juste sur les gestes du quotidien, et qu'est-ce qu'ils étaient et comment est-ce qu'ils étaient détournés par cette réalité-là. Et oui, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que l'infusion de cette... du viol dans la manière de penser, dans le fantasme, c'est quelque chose qu'on voit très peu, comme si on avait peur que ça voulait dire qu'en fait, on était coupable. Et je trouvais ça très important, du coup, qu'elle force la policière et pas le policier à dire quelque chose, à faire quelque chose, parce que c'est une femme aussi, et que cette femme-là ne la refuse, entre guillemets. Et ça aussi, je trouve que c'était très important de ne pas être dans une lecture binaire et de montrer que c'était la femme qui l'a repoussé violemment et pas cet homme-là, je trouvais que ça racontait beaucoup de choses aussi de misogynie intégrée, et je trouvais que c'était hyper important en fait de le montrer au-delà de juste la violence de soi à soi, quoi.
Par rapport à la distance qu'on avertit au début du film et qui justement se complexifie jusqu'à des moments très forts et très émotionnels, j'ai découvert, je dois dire, je ne le savais pas avant, que cette home tour, c'est une pratique internet, c'est quelque chose qu'on fait, que les gens regardent. Est-ce que l'idée de partir de ce format qui est presque déjà existante, déjà prêt au moins dans les pratiques internet, est-ce que c'était une façon de rendre familier, surtout pour une certaine tranche d'âge, je voudrais dire, le film et le récit?
C'était beaucoup plus innocent que ça. C'est des vidéos que je regarde beaucoup et que j'adore et qu'on regarde tous parce qu'elles correspondent, je pense, à un désir de venir voir comment les autres vivent, comment les autres s'organisent. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on regarde ces vidéos, on attend toujours le moment où la personne va nous révéler quelque chose qu'on ignore et qui n'arrive a priori jamais. Et je trouvais que c'était important, surtout dans le sens où souvent ces vidéos-là, elles sont filmées, elles sont faites par la volonté de la personne qui vous introduit chez vous. C'est pas quelqu'un qu'on force à venir, c'est pas quelqu'un qu'on force à présenter, c'est quelqu'un qui veut qu'on voit chez lui. Et ça, je trouvais que c'était un modèle assez intéressant, et cette idée de reconstituer notre quotidien, c'était hyper important pour moi, et le house tour, ça a marché très bien là-dedans, quoi.
J'aurais peut-être une question sur la nature en fait de la tirade théâtrale qui est déclamée par votre actrice, votre personnage au début du film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez écrit pour le film ou que vous avez trouvé dans une œuvre littéraire ou théâtrale et que vous avez ensuite importé dans le projet?
Non, c'était un. Je l'avais écrit pour le film, mais elle venait d'un autre court-métrage que j'avais écrit avant, où c'était un enfant qui jouait, et donc ça n'avait pas du tout la même portée, parce que ça venait d'un enfant. Mais je trouvais que, encore une fois, le fait de montrer dans ce jeu le fait qu'elle rejoue elle-même sans que personne ne lui impose ce qu'elle a vécu, je trouvais que c'était très important. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui, je pense, n'ont pas dit certaines choses parce que ça a infusé dans leur inconscient. Et elles ont fini par se persuader que c'était une volonté personnelle, que c'était... Alors qu'en fait, non, c'est juste que c'est un conditionnement. Et je trouvais que c'était important d'ouvrir là-dessus. Parce que ça raconte beaucoup pour moi du détachement du personnage, parce qu'il n'est pas sûr du caractère dramatique de ce qu'il nous raconte.
Et justement, cette comédienne, vous l'avez choisie pour la manière très singulière, je trouve, dont elle déclame justement ce texte. Parce que c'est vrai qu'elle a un phrasé, dans ce moment en particulier, je trouve, qui est vraiment intéressant et qui apporte une grande, enfin, qui montre qu'elle a une grande présence comme ça à l'écran.
Non, ça, c'est plutôt une partie qui était pas évidente pour elle.
Ouais.
Parce que la grande, grande qualité de Patience, c'est d'avoir un peu un truc un peu à la Sandrine Bonner, où elle a un naturel complètement désarmant. Et c'est ça qui était bouleversant en casting. Et donc, d'un coup, quand je lui ai demandé de faire cette scène qui était beaucoup plus irréaliste, c'était beaucoup plus troublant pour elle. Et on l'a beaucoup répété ensemble, on s'est beaucoup amusé. Mais je pense que son talent à elle, qui vient d'un naturalisme, a complètement infusé dans la façon dont elle disait ce texte-là. Ce qui fait que je pense que ça crée un truc étrange, mais qui fait que c'est pas trop théâtral non plus. Enfin, c'est un peu un entre-deux.
Et vous citiez Sandrine Bonner, bah justement, c'est vraiment à elle que personnellement j'ai pensé. Je pense à Écoute aussi un petit peu. Bien sûr, la tirade de À nos amours,
oui.
Qui est aussi un film sur une sorte de féminité comme ça, en proie à comment dire, au désir des hommes, parfois un petit peu pressant, on va dire. Mm. Et du coup, bah, ça fait qu'on a l'impression que que le film commence avec la greffe de cet imaginaire pour ensuite glisser peu à peu vers toute autre chose via ce corps qui est d'abord burlesque et puis bah, qui finit par être vraiment complètement, totalement douloureux, quoi.
Ouais, non mais complètement, j'ai beaucoup pensé à cette tirade dans À nos amours, et c'est ce que j'ai dit à la directrice de casting quand elle m'a demandé à quelle actrice tu penses pour ce rôle, et je lui ai dit il faudrait quelqu'un un peu comme Sandrine Bonner, et Patience était parfaite dans ce sens-là.
Quand on est cinéaste, je pense que c'est plutôt un grand plaisir de, comment dire, de faire cette trouvaille, enfin, de faire cette découverte d'une actrice qui a une puissance potentielle de puissance comme ça, expressive, comme cette jeune actrice. Oui. Tu avais déjà travaillé, je crois, avant de tourner dans votre...
Oui, j'aurais adoré la découvrir, mais elle avait déjà fait deux longs métrages.
Voilà.
Mais c'est vraiment très chouette de travailler avec elle, et on a toujours envie de travailler ensemble. Et c'est aussi chouette de trouver quelqu'un qui... Elle a 5 ans de moins que moi, mais on est quand même proche en âge, donc ça, c'est très agréable aussi.
Vous êtes arrivé à la fin de votre cursus, du coup, à la FEMIS ?
Pas encore.
Pas encore ? Il y a encore quelques échéances
où... Il me reste un court-métrage à réaliser et un long-métrage à écrire.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la FEMIS, bon, c'est une école prestigieuse, bien sûr, qui apprend à tous les métiers du cinéma. Il y a beaucoup de grands noms, de grands cinéastes, grands réalisatrices, réalisateurs qui en sont sortis. Mais on dit aussi parfois que c'est une école qui formate peut-être un peu le regard. Vous qui êtes complètement impliqué dans cette école, parce que vous en sortez bientôt avec succès, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces gens qui ont ce regard un petit peu méfiant sur la FEMIS, en disant qu'effectivement peut-être on rate des cinéastes potentiellement des cinéastes qui proposeraient des formats complètement hors cadre, qui seraient en dehors des... Comment dire, du cadre narratif, esthétique du cinéma français.
En fait, je pense que, bon, déjà à la FEMIS, il y a plein de départements, donc ça dépend aussi du département auquel on fait référence. Cet aspect de formatage, je pense qu'il est plus fort peut-être en scénario. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues réalisateurs, réalisatrices en sortant de la FEMIS, qui venaient de ce scénario. Et je pense qu'en réalisation, en tout cas moi, j'ai pas ressenti de formatage. J'ai ressenti une très grande liberté tant que je jouais, entre guillemets, dans les contraintes qui m'étaient données. Mais moi, je les ai jamais vécues comme encombrantes, mais plutôt comme des pains bénis de « Ok, on me donne 5 jours de tournage. Quoi qu'il en soit, j'aurai 5 jours de tournage. » Par exemple, pour Home Tour, techniquement, on aurait pu le réaliser en 2-3 jours. Mais on a pris 5 jours parce qu'on avait le droit, ce qui, je pense, n'est pas forcément possible à l'extérieur. Donc moi, je ressens pas ce formatage-là. J'ai l'impression que d'avoir été encouragée à la FEMIS dans le fait de faire ce que j'avais envie de faire. Mais par contre, je l'ai ressenti plutôt peut-être par rapport à une formation de scénario. Et effectivement, pour le scénario d'Home Tour, on m'a un peu tapé sur les doigts, mais on m'a laissé le faire.
Justement, peut-être, avant de terminer, une dernière question sur un point que vous avez évoqué au départ. Sur un visionnage que vous avez fait, l'expérience à la FEMIS, comment votre film a été reçu par les autres étudiants et les professeurs aussi, parce que j'avais l'impression que ces derniers temps, quand les femmes font des films sur le viol ou des personnages dits trop féminins, elles sont quand même critiquées par trop personnaliser pour être trop dans l'intimité. C'est plutôt une reproche, une critique, ou bien une sorte de critique qu'on entend souvent, comme si elle se limitait elle-même. Est-ce que vous avez reçu ce type de commentaires de vos collègues ou de profs? Je suis curieuse.
Beaucoup. Mais j'ai envie de dire que c'est pire que de dire que c'est trop intime. C'est que, et je trouve que c'est assez comique, c'est qu'ils nous disent encore, vous allez encore faire un film là-dessus, vous parlez encore de ça. Et je trouve ça très drôle parce qu'on dirait que c'est un sujet extrêmement niche et c'est la moitié de la population qui le vit la plupart du temps dans sa vie. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup entendu, et j'ai aussi entendu des producteurs me dire non, c'est très bien d'avoir fait Home Tour, mais par contre, l'année prochaine, fais un film qui ne parle pas de ça. Je pense que c'est mieux pour ta carrière.
Comme si, une fois qu'on parle, ça s'arrête là. Comme si on peut l'échanger. Donc, merci pour cet échange, Laura Devin. Bon courage pour la compétition. Et le film va être projeté ce soir, bientôt à 20h. Donc, merci d'avoir nous écouté. Et merci, Nicolas et Giuseppe, pour nous participer à la discussion avec vos questions. Et merci, Olivier, derrière le micro, nos techniciens.
Merci.
Merci beaucoup.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.